Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'antredugeek.com.
Red alert. Red alert. Red alert.
You crossed my line of death!
You haven't dismantled your MX stockpile.
Pakistan is threatening my border!
That's it, Buster. No more military aid!
Nuke them. Get them before they get you. Another quality home game from Butler Brothers.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier et aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino et je vous présente mon co-animateur David Jonf. David, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien malgré le fait que, manifestement, je n'ai plus d'oreilles.
Ah ouais, ça doit être parce que ta fille écrit trop.
À côté, oui. Je peux faire autre chose.
Alors, là, il faut juste pas, tu sais, parce que ceux qui écoutent le podcast, ils n'ont jamais rien vu. Hein, on fait jamais d'erreur dans l'intro. Ceux qui l'ont vu sur YouTube, ils l'ont vu. Il faut juste que je coupe à bonne place quand je fais la version podcast. Pour pas que les gens l'entendent. Écoute, j'ai le goût de te lancer directement dans la marmite. Hein, je t'avais dit un peu avant.
Ben oui, c'est quoi ça? Tu veux parler d'une controverse?
Oui, écoute, figure-toi donc que cette semaine, il y a eu une controverse autour du film Star Trek Beyond.
Okay?
Simon Pegg et l'équipe d'auteurs ont dit que le personnage de Sulu était gay. Et que dans le film, on allait voir, genre dans le fond, on allait voir qu'il était gay. Ceci étant dit, George Takei, hein, qu'on connaît tous, qui a joué Sulu dans la série originale, puis dans les films originaux.
Et qui est gay, puis qui travaille beaucoup pour l'égalité des droits, pas des droits des gays, mais de la représentation des droits des gays. Que...
Figure-toi donc que lui a très mal pris ça. Et il est contre le fait que Sulu soit gay, parce que selon lui, et voici les arguments qu'il a dit, ça ne respecte pas la vision de Gene Roddenberry. OK? Si il montre qu'il est gay dans le troisième film, ça veut dire que dans les deux autres, il était dans le garde-robe. C'est pas nécessairement une bonne image que ça envoie. OK? Et selon lui, ils auraient dû créer un nouveau personnage principal qui était gay. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Surtout... ouais, cette controverse et de la réaction de George Takei.
Ben écoute, il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte là-dedans, je trouve. Là, je réagis à chaud parce que je n'étais pas au courant de cette controverse-là. Pourtant, je suis George Takei sur son fil Facebook régulièrement, tous les jours. En fait, je m'envoie sur sa page à lui. Tu sais, quand tu as un nouvel ami Facebook, tu y vas une fois, puis après ça, tu y vas plus jamais. Là. Ben lui, George Takei, j'y vais à tous les jours. T'sais. Bref, je comprends ce qu'il dit puis pourquoi il dit, mais prenons les points un après l'autre. Donc, je vais essayer de faire ça vite parce que c'est pas du tout le but de l'émission là. Mais
ouais, je sais, mais je trouve que c'était une. Faut qu'on parle de ça. On parle de cinéma.
Donc, Sulu ne représente pas. Ça représente pas le concept du personnage de Gene Roddenberry. Mais dans ce cas-là, pourquoi en rajouter un autre? Ça va plus représenter l'idée originale.
Ouais.
Je suis pas sûr. Le fait que ça implicitement, donc, Sulu était dans le garde-robe les autres émissions, les autres films avant, oui, effectivement. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est que ça change tellement de réalisateur à chaque fois, ça change tellement de d'auteur que c'est sûr que ça va à gauche, à droite, puis ça se pitche un peu partout. Moi, je trouve que la nouvelle édition des films de Star Trek manque définitivement de focus puis de direction. Tu sais, où est-ce que t'as le premier film qui s'en va, qui casse avec le passé, qui s'en va carrément dans une nouvelle direction pour après ça faire un remake de Wrath of Khan dans le deuxième, puis après ça, Beyond, une autre affaire, puis... Moi, je trouve que ça s'en va nulle part. Ça s'en va direct dans le mur, cette affaire-là. Fait que... Ouais, je sais pas.
Je pense, ouais. Tu sais... Je trouve que George Takei a raté une occasion de réfléchir un peu avant de parler, parce que l'argument de ça respecte pas la vision de Gene Roddenberry.
Ben, ça, c'est n'importe est-ce quoi.
Que, c'est dans les années 60, est-ce que Sulu aurait pu
non.
Vertemaguer? Non. Par contre, si George Takei avait eu l'opportunité de jouer un Sulu ouvertemaguer, est-ce qu'il aurait été heureux? Sur Mac, oui. Je pense que là, ça devient un peu de l'hypocrisie. T'sais. Puis, il faut pas oublier que... on reçoit tous le même message en même temps. que le but de refaire Star Trek, c'était d'adapter, de l'amener à des codes socioculturels actuels. Donc, d'avoir un personnage homosexuel, c'est parfaitement normal. Je trouve ça, ouais, je trouve ça plate. Puis, je veux pas après ça s'alimenter la... Ça alimentait la haine de ça, de côté de ultra geeks de Star Trek qui sont comme ça respecte pas le femme. Puis d'un côté de gens sur internet qui vont faire comme gay dans un. Tu sais, un personnage gay, c'est la merde, je veux pas le voir à cause de ça, il devrait pas être là. Tu sais, les mêmes qui veulent pas le voir le nouveau Ghostbusters parce que c'est quatre femmes. Je trouve que George Takei a juste raté une occasion de d'aider. C'est pourquoi il se bat tellement au lieu de le nuire puis de donner une raison aux gens de démolir ça. C'est plate parce qu'on veut pas, c'est sûr qu'ils ont pensé à faire Sulu un personnage gay à cause de George Takei. Fait que bon.
Ouais, je c'était l'éditorial du jour.
Surtout qu'on fera pas d'épisode sur Star Trek Beyond parce qu'on n'est pas, parce qu'on est pas
non,
là.
Non, mais on le sait pas. Peut-être qu'on va en faire un épisode sur Star Trek Beyond dans 10 ans.
Dans 10 ans, ouais. Quand ça va être. Quand genre ils vont sortir les autres remakes. C'est remakes ça. Des remakes de J.J. Abrams. Donc, David, présente-nous le film de la semaine.
Il s'agit de Robocop de 1987, l'original. Donc, l'histoire du film, c'est un policier dans un détroit futuriste avec une ville qui est sur le bord de la banqueroute, avec un taux de criminalité extrêmement élevé, bref, juste détroit.
Et, genre, c'est ça, détroit en 2016.
Détroit en 2016, quoi. D'ailleurs, il y a les gars de Honest Trailer, de Screen Junkies. Ils ont fait un honest trailer de Robocop, c'est ça qu'ils disent. Là. C'est pas ma blague, c'est la leur, j'avoue. Mais c'est tellement bon, ça. Faudrait faire un lien sur notre Facebook avec ça, en tout cas. Bref.
Ouais.
Le synopsis, c'est donc un de ces policiers-là dans cette ville-là se fait détruire par un gang de malfrats. Il se fait assassiner d'une façon assez violente. Et OCP. Ouais, on en parlera un peu plus tard de la violence. OCP, qui est la grosse compagnie qui veut essayer d'acheter essentiellement la ville, décide d'investir dans un programme pour des androïdes policiers pour gérer la nouvelle ville. Et leur test, c'est Robocop. Robocop réalise... Il y a encore un fragment de mémoire, puis il réalise que il tombe une couple de fois sur des malfrats justement qui l'ont assassiné et il décide d'aller les arrêter, de les traîner en justice, donc de toutes les tuer avec des balles dans la tête.
De préférence. Ou entre les jambes.
Ou entre les jambes. Non, mais lui, il l'a pas arrêté.
Ah non,
c'est. C'est-à-dire qu'il l'a pas assassiné, ce gars-là.
Pas beaucoup. Il a juste. C'est arrangé pour plus qu'il puisse se reproduire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le violeur, il n'a pas assassiné Murphy, tu sais.
Non, c'est vrai.
Fait qu'il ne tire pas dans la tête, c'est il tire vrai. Juste dans les jambes.
Dans les jambes.
Dans la troupe, jambes.
Là où...
Là où ça fait mal.
Ouais. Ça fait écoute, j'adore... Il y en a une affaire que j'ai toujours aimé de Robocop, là. C'est la question éthique posée par le film. Dans le fond, qui est... Mettons qu'on crée une espèce de machine humaine. Tu sais, c'est un cerveau... Essentiellement, c'est un cerveau humain dans une machine. Donc, à la place d'avoir un disque dur puis de ce qui fait un ordinateur, c'est l'ordinateur humain. Est-ce que on peut considérer un être humain encore ou c'est une machine? J'aime cette question. Parce qu'il y a un jeu beaucoup là-dessus. Parce que même, Tu sais, voyons le gars qui écrit Robocop, le Bob Chose, là, comment il s'appelle, je l'ai ici, le... Bob Morton, là. Il dit, genre, carrément, ah, c'est un produit. C'est notre propriété, tu sais. J'aime cette question-là, j'aime ce truc-là.
Ben, je trouve pas que c'est au centre du film, du tout, du tout, du tout.
Ben, moi, je pense que, tu sais, Verhoeven a voulu critiquer un peu... on sait qu'il critique la société, genre, de consommation, là, beaucoup dans le film.
Ben oui.
Il naisse beaucoup avec ça. Je pense que, oui, je pense que ça fait partie des thèmes centraux du film. Là. Tu peux pas l'enlever, tu peux pas dissocier ça du film.
J'ai pas trouvé que c'était si tant au centre du film que ça. Oui, la question est soulevée, mais tu sais, je trouve que c'est beaucoup plus une histoire de vengeance qu'une histoire éthique, machin, tu sais. S'il y avait vraiment... Si cet aspect-là avait été au centre du film, l'aspect éthique de la machine qui nous appartient, à ce moment-là, il aurait dû essayer de s'émanciper de cette règle-là dans le film. T'sais. Il aurait dû essayer de s'émanciper et de devenir un être à part entière dans le film, alors que non, pas du tout. À la fin du film, il est au même point qu'au départ là-dessus. T'sais. Fait que je suis pas sûr. Moi, c'est pas du tout ma lecture.
Ben, dans le fond, moi, je trouve que justement, c'est ça qui manquait. On n'a pas vu... Ben, oui, un côté de son émancipation, il cherche... Qui l'a tué? T'sais, il cherche qui l'a tué.
Ouais, mais ça pas rapport avec le fait qu'il est une machine, un robot qui appartient à quelqu'un. C'est, ouais, une histoire ben de, ça... c'est pour ça que je dis que c'est une histoire de vengeance beaucoup plus qu'une histoire d'émancipation, ouais, de la machine. T'sais.
Ben, c'est comme. Il se rend compte qu'il est humain. Dans tout ça, il se rend compte à un moment donné qu'il est humain. Là, parce qu'il, t'sais, il y a un déclencheur où il fait un rêve. Il rêve là, du moment qu'il s'est fait tuer. Là. Puis c'est vrai que c'est pas assez exploité. Je pense que dans le fond, quand ils ont fait Robocop, le nouveau, là, qui d'ailleurs, je dois dire, n'est pas un remake, mais pas du tout, le réalisateur du nouveau Robocop a jamais voulu faire un remake. Quand faire un remake, c'est refaire le film.
Un peu un échec, là.
Ben,
parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai vu, en fait. Là.
Ouais, mais ce qui est arrivé, c'est que tout le producteur, par contre, a décidé de marketer le film complètement comme un remake. Lui, c'était de prendre cet aspect-là de l'histoire, puis du côté genre de l'humanité, puis de Robocop, il a voulu refaire un film qui mettait l'accent purement là-dessus. Parce que le nouveau, ben, on l'a vu les deux, je l'ai vu aussi. C'est vraiment genre la quête de Robocop de devenir un humain, un peu. Là.
Ben, beaucoup plus que l'original, mais... Ouais. Mais tu sais, il y a des scènes où est-ce que, mettons, il y a une scène où est-ce que Murphy, ben, dans celui de 87, donc Murphy retourne chez lui, son ancien chez lui, puis il voit la maison dans laquelle il vivait avec sa femme et son fils. À l'origine, cette scène-là, il était supposé d'arriver à la maison, puis que là, son fils et son chien se pointaient, puis là, son fils le reconnaissait pas, mais son chien, lui, le reconnaissait. Mais ils ont jugé qu'en 1987, ça n'avait pas rapport, puis que ça le rendait trop humain, tout ça. Fait qu'ils ont décidé de couper la scène, puis ils rentrent juste dans une maison vide. Or, dans le nouveau Robocop de 2000 quelque chose, là, en tout cas récemment, on l'a, cette scène-là.
Ouais, c'est le chien qui le reconnaît, puis... Ouais. Ben, tu sais, ils ont joué plus sur cet aspect-là. Moi, ce que je te dis, c'est ça, j'aime bien la question posée par le film. Je suis d'accord avec toi. Le film va pas là. C'est pas le but principal du film. C'est une histoire de vengeance, de quelqu'un qui veut juste faire payer ceux qui l'ont fait souffrir. Mais la question est là. Je trouve ça intéressant. Puis peut-être aussi le fait qu'ils l'ont pas exploité plus que ça. C'est comme tu dis, en 1987, est-ce que vraiment cette question-là aurait passé dans un film mainstream? Puis tu sais, en même temps, Paul Verhoeven, c'est le genre de questions avec lesquelles il aime ça, que ça soit dans Total Recall. Ouais, tu sais, Starship Troopers, il met beaucoup de petites affaires de même qui sont des questions plus profondes, mais qui passent dans un film enrobé d'extrêmes pis d'autres affaires que tu vas plus attirer l'attention. Fait que j'aime ça du film, tu sais. Toi, c'est quoi qui t'a accroché vraiment dans le scénario? Là?
Dans le scénario, rien pantoute. Moi, j'ai pas aimé ça, ce film-là.
T'as jamais aimé Robocop?
Pas vraiment.
Comment ça?
Ben, Écoute, premièrement, c'est d'une violence. Oh my God, que c'est violent.
Mm-hmm.
Écoute, j'en parlais un peu avec ma mère hier, tu sais, parce qu'elle a dit qu'elle a jamais... Ben, pour mettre les gens en contexte, là, ma mère, c'est une grande, grande, grande cinéphile, puis mon amour des films vient définitivement d'elle. Bref, parce que j'ai aussi un club de vision de films avec ma mère. J'en écoute des films dans la vie, là. Bref, elle dit qu'elle n'a jamais vraiment passé la première moitié du film, mettons, parce qu'après l'assassinat de Peter Weller, voyons, Alec Murphy.
Alec Murphy, oui.
C'est tellement violent qu'elle, ça la décourage, puis après ça, elle n'est jamais allée plus loin. Mais écoute, le bout où est-ce que le gars, il rentre dans une tank de produits toxiques, là, puis là, sa chair fond autour de son squelette, puis là, il lève la main, puis tu sais, il y a comme l'os qui est tout droit, mais la chair qui pend.
Ouais.
Qui a comme l'os a passé à travers la chair, puis la chair pend. Oh my God, c'est dégueulasse! Puis après ça, l'espèce de gros pic qui rentre dans le cou du gars à la fin, puis ouais. Là, dans sa jugulaire, puis là, ça pisse le sang, un super gros jet. Puis écoute, c'est tellement violent, là! Puis les affaires de Nukem, justement, la pub qu'on a entendue au début de l'épisode, c'est épouvantable. C'est juste que je trouve pas que c'est un film d'action. Je trouve que c'est un film gore.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais la violence, souvent dans Verhoeven, parce que, bon, ça en fait trois, là, qu'on voit, là, c'est caricatural. C'est ça l'affaire. C'est ben, over the top comme une caricature va l'être. Tu comprends?
Ben oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que généralement chez Verhoeven, c'est ça, mais comme mettons dans Starship Troopers, c'était ça. Parce que le film en entier, d'ailleurs que toi, t'avais moins aimé Starship Troopers que moi, puis toi, t'avais pas vu l'aspect justement. Comique, série B, tout ça. Moi, c'est l'inverse. C'est dans Robocop que je le vois pas du tout, l'aspect comique, là. L'aspect over the top, là. Je vois pas ça du tout, là-dedans, là, non.
Ouais, puis je trouve, tu sais, il y a quelque chose aussi surtout en 87, une espèce d'exagération de son époque, qu'il y a dans Robocop que j'aime beaucoup aussi. Je veux dire, toutes les pubs, toutes les nouvelles, tu sais, il y a une caricature extrême de la fin des années 80. Bob Morton qui sniffe de la coke avec des prostituées. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est... Il y a beaucoup de clichés des années 80 qui a amené à... Et à puissance 1000, là, je veux dire, le monde, tu sais, le monde des affaires hyper compétitif, tu sais, où genre, finalement, Dick Jones, il envoie une grenade, il fait tuer, genre, en faisant sauter à la maison de l'autre. Tout ce côté-là... Ouais, Robocop, c'est ça. C'est une caricature des années 80, d'une époque plus violente, veux pas. D'une époque aussi où même les villes, tu sais, on niaise sur Détroit, puis c'est violent, puis ça, puis... tu sais, faut pas oublier, tu sais, souviens-tu, New York dans ces années-là, tu sais, trucs. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est beaucoup plus... Même si, tu sais, même avec ce qu'on voit à la télé, même si ce qu'on essaie de nous faire croire, on n'a jamais été aussi en sécurité, tu sais. Il n'y a jamais eu si peu de violence. Il n'y a jamais, tu sais. Dans les années 80, on est dans un monde où, côté criminalité, tout était. Il y en avait plus. T'sais. Surtout aux États-Unis. Parce que même si, comme je dis, les nouvelles essaient de nous faire croire que tout chie, là. Mais non, tu sais. C'est pas ça. La réalité statistique de l'humanité en 2016 est très différente. Fait que Verhoeven, il a vraiment fait une exagération de ça. Il a poussé ça au maximum, l'annonce du cœur, tu sais, où tu peux acheter un nouveau cœur, c'est comme si c'était un produit. Ah, on a même des plans de financement. C'est tellement grossier. Le char, là, qui sont fiers, là, puis tu sais, cette affiche qui consomme tellement, là, puis c'est comme le point de vente du char, c'est qu'il consomme du gaz comme un débile.
Ouais. 6000 trouve... socks.
Ouais, tu sais.
SUX.
Pour ça, j'ai toujours vraiment aimé Robocop, pour ces trucs-là. Je pense que l'histoire du film, c'est un prétexte. Verhoeven a mis les trucs, les a distribués puis cachés un peu partout, là. Ce qui fait vraiment l'intérêt pour moi de Robocop. Mais je vois aussi ce que tu dis, tu sais. Faut passer par-dessus cette violence extrême-là.
Ben c'est ça, c'est parce que je vois pas le lien entre... Je comprends ce que tu dis par rapport aux annonces pis tout ça, là, mais c'est juste que je vois pas le lien entre l'hyper-violence des scènes et l'aspect ludique. T'sais. Je suis pas capable de faire le lien l'un avec l'autre. Je comprends pas. J'ai la misère à voir pourquoi que... j'ai besoin de voir le gars se faire tirer dans la tête plutôt que juste voir plutôt un mur avec une splash de sang qui apparaît, tu sais. Pourquoi j'ai besoin de le voir se faire shooter et d'en face, tu sais. C'est ça, là. J'étais un peu ambivalent par rapport à ça, là. Je suis pas certain. Non. Je suis pas à l'aise avec ça. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, dans les années 80, j'avais un Robocop qui avait, tu sais, les espèces de, qui avait les espèces de bandes avec des pétards dedans, là. Ouais. Puis tu y rentrais ça dans le dos, puis tu pouvais faire clic, puis ça tirait des... Ouais, c'est ça. Man, c'était du marketing pour les enfants de 7 ans, 8 ans. Et parce qu'en 87, j'avais 7 ans, tu sais.
C'est là que qu'on voit aussi... tu sais, il y a la vision de Verhoeven, puis là, il y a un producteur qui a pris ça, puis qui a décidé de le vendre aux enfants. Je suis persuadé que Paul Verhoeven n'a jamais voulu vendre son film à des enfants.
Et
en même
non.
temps... Ouais, c'est ça, mais en même temps, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le film, avec les jeux, les produits complètement ridicules qu'ils vendent dans le film, sur la consommation et le marketing débile. Ben, le film lui-même, de Robocop.
C'est un peu un paradoxe, ouais. En fait.
Tu sais, c'est magnifique.
Ouais, ça, je suis vraiment d'accord. Ça, c'est vraiment un paradoxe.
Tu sais, si jamais tu le revois, tu sais, pense à. Bon, les années 80, c'est quand même un. Il y a une mine d'or pour des films d'action. On s'entend, là, dans les années 80, oh, il y a une trollée. Qui sont d'une violence... Il y a beaucoup plus de scènes de violence, mais qui montrent rien. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de ci, tout est clean, il y a plein de gens qui
sont tués. Sauf dans Robocop, là, c'est assez évident dans Robocop. Là.
Mais c'est ça. Moi, je pense que, peut-être que je capote, il y a un côté de ça. De faire comme, ok, dans les années 80, là, c'est ça, vous aimez ça, là, des films, hein? Les gens se font tuer, les gens se font si, tu sais, Steven Seagal, il casse des coups, c'est correct, on entend crack, mais c'est propre, tu sais, c'est pas grave, là. Mais, moi, je vais le faire, mais vous, si un gars se faisait tirer dessus, dans telle ça, il arriverait ça. Puis, il exagère aussi, là. Fait que, c'est comme s'il avait décidé de, ah ouais, vous voulez ça, tiens, moi, je vous le montre. Mais je vous le montre complètement. Détournez-vous pas les yeux à cette heure. Il y a un côté à ça que j'aime. Je pense que c'est ça qui m'attire plus.
Non, mais je comprends ton point. Mais c'est juste que j'ai comme la difficulté à faire le parallèle entre ce que je vois puis ce dont tu me parles. Mais je comprends le lien que tu fais. Mais moi, dans ma tête, la connexion se fait pas, on dirait. Je sais pas, il y a comme un aspect qui me manque. Pour faire le lien entre la critique sociale puis le gore que je vois, tu sais. Je trouve juste qu'il y a, un petit décalage, là.
Moi, je pense que c'est toujours, ça reste une question de, tu sais, à un moment donné, si tu l'as vu, tu sais, c'est un film que tu as vu plusieurs fois.
Oui.
Tu pourras plus jamais pas le revoir comme ça. Je sais pas si tu comprends, tu sais. C'est imprimé un peu comme ça. Parce que c'est la vision, tu sais. Puis je pense que c'est aussi le genre de film où t'aimes ou t'aimes pas ça. Tu peux pas. Si tu, le premier coup, tu l'as pas catché, mais je veux dire, t'as pas cette interprétation.
Fais attention à ce que tu me dis.
Non. Je suis pas en train de dire, t'as rien compris, là. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas fait cette interprétation. Ce que je veux dire, c'est que si du premier coup, t'as pas fait cette interprétation-là, t'as une autre interprétation qui t'est gravée, pis, veux pas, c'est très polarisant, comme film, comme manière de faire les choses. Fait que je trouve ça intéressant aussi qu'on ait ces deux visions-là dans l'émission à nous deux. Je trouve que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont avoir un ou l'autre. On va parler un peu des acteurs. Peter Weller, qui joue Alex Murphy / Robocop.
Tu me demandes qu'est-ce que moi je pense de lui? Ben écoute, de façon générale, les acteurs dans ce film-là, de façon générale, je trouve pas ça génial.
Il y en a un que j'aime vraiment.
Oui, c'est probablement le même que moi. Mais Peter Weller, je trouve qu'il fait un mauvais robot.
En fait, moi, j'allais dire que je vois pas la différence entre Alex Murphy et Robocop.
Ben, c'est ça. C'est ça. Il y a comme pas... Tu sais, il est pas il est pas plus... Comment je pourrais dire ça? Son langage est pas différent. Ses mouvements sont saccadés. Mais tu sais... C'est pas... C'est vraiment pas grandiose.
Non, il est pas plus stiff en Robocop.
C'est weird, je trouve. Autant, je trouve que le format... Parce que moi, ce qui m'a accroché dans ce film-là, puis on va y venir plus tard, c'est les costumes, les décors, l'ambiance. Mais tu sais, je trouve que le costume de Robocop est hallucinant, puis ça vient me chercher au bout. Mais l'acteur dedans, je le trouve vraiment pas très bon, en fait.
Non,
en tout cas, on parlera de son day job un peu plus tard, là, mais j'ai vraiment pas trouvé que c'était une grande performance de Peter Weller.
Et en plus, ce qui est toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Je l'ai trouvé pourri, je veux dire. En Robocop, tu sais, il est trop stiff quand il est humain.
Puis il l'est pas assez quand il est un robot.
Ouais, mais tu sais, il y a pas plus d'émotion.
Non. Puis je trouve qu'en fait, il est pas stiff dans les bons moments. Tu sais, comme là, il monte l'escalier, quand il s'en va arrêter Ronnie Cox dans les bureaux d'OCP, il prend un ascenseur, puis il monte, puis là, il a comme les mains barrées en avant, comme une espèce de polichinelle de robot, là, tu sais, il est pogné avec les mains drettes en avant, comme ça. Mais là, après ça, il s'en va dans le... Ben, avant ça, en fait, il s'en va dans la manufacture de cocaïne, puis là, il tire tous les gars, puis il est super agile, puis là, il bouge super bien, puis là, il tire à gauche, tire à droite, en dessous du bras, puis là, après ça, ça marche pas. Comment ça, quand il attend, il est super comme poupée, polichinelle, pantin, machin, puis après ça, il est super agile. T'sais.
C'est parce qu'ils l'ont crinqué avant qu'il est allé dans l'usine. Non, mais ce que j'aurais aimé aussi, c'est que bon, comme humain, il soit plus humain, que comme Robocop, quand il se réveille en Robocop, qu'il soit vraiment robot, mais que graduellement, parce qu'il veut pas... Il s'humanise là, un peu, là, malgré lui. Puis il décide d'enlever son casque. Puis à la fin, même à la fin du film, là, spoilers, là, quand il se fait demander c'est quoi ton nom, puis il répond Alex Murphy. J'aurais aimé qu'il devienne plus humain.
Ben oui, mais c'est pour ça tantôt que je te disais ouais. Que je trouvais que cette question-là est pas abordée. Parce que il y a Robocop, là, il arrête les méchants, puis là, il arrête les gens qui l'ont tué parce que c'est des cop killers. Puis là, subitement, à la fin, c'est quoi ton nom? Alex Murphy, pardon. Mais là, comment ça? On saute de Robocop à Alex Murphy. Là, ça vient d'où, ça?
C'est ça. Elle est abordée, mais mal faite. Puis je pense que l'acteur avait juste pas la capacité de le faire. Si t'avais eu un meilleur acteur, là, ce côté-là aurait été beaucoup plus présent. Puis je pense que la vision de Verhoeven est là. Dans le fond, tu sais, le remake... Il y a des gens qui ont craché sur le nouveau Robocop. Moi, j'ai pas haï ça. Justement, parce que cet aspect-là est vraiment mieux réussi. Tu vois qu'à la fin du film, il est très humain, tu sais. Il bouge, il parle, il perd son espèce de côté stiff. Mais bon, c'est Peter Weller. Après ça, on a Nancy Allen qui fait Anne Lewis.
Ben, moi, je trouve qu'elle a vraiment une très grosse qualité. Elle a un très beau prénom. Nancy.
Ah, ok, je pensais que c'était son personnage. C'est l'actrice.
C'est le nom de ma femme. Je trouve que c'est la plus grande de ses qualités.
Elle est... Premièrement, l'actrice est pourrie. Deuxièmement, c'est le personnage...
Le personnage est inutile.
Écoute, j'ai pris... Dans les notes que j'ai prises, là, j'ai écrit « Murphy se fait tuer parce que sa partenaire est trop conne. » Et c'est littéralement ça. J'ai écrit ça, tu sais. Et trop conne. Tu sais, la scène où il y a le gars en train de pisser, là. Puis elle arrive pour l'arrêter. Puis elle essaie de se rendre subtilement au gars. En mâchant une gomme ballon, puis en faisant une ballonne, tu sais. Qui pop. Le gars, il la voit, puis là. Puis, après ça, ça continue, là, tu sais. Le gars, il dit, tu sais, mind if I zip this up, tu sais. Puis elle check la zone. Puis elle est déconcentrée par sa zone, il la knock out, puis à cause de ça, Murphy, il meurt, man!
C'est tellement ça en plus.
Ça
ah
fait...
non, mais quel personnage inutile! À part le fait que mettons, elle se rend compte que c'est Alex Murphy. Tu sais, c'est oui. la seule qui se rend compte que c'est Alex Murphy. Mais outre ça, là, à quoi elle sert? Elle sert à rien.
À rien. Puis en plus, elle est tellement. Tu sais, ça fait combien d'heures qu'ils sont partenaires? Qu'ils se connaissent? Genre 3 heures?
À peu près.
Puis ils ont comme un lien là, intense entre les deux.
Ah oui, non, je comprends pas d'où c'est que ça vient, ça. Moi, je disais... C'est comme si le fait qu'elle reconnaissait que c'est Alex Murphy, ça déclenche quelque chose dans la tête à Robocop qui deviendrait ouais. éventuellement humain à la fin du film. Mais, tu sais, si t'enlèves le personnage de... C'est quoi le nom de son personnage? Anne Lewis. Si tu l'enlèves, puis à la place, tu remets son fils dans la maison avec son chien, puis le gars, il arrive, puis là, il réalise, il snap. Et voilà, merci, bonsoir.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est aussi simple que ça, là. Le personnage d'Anne Lewis, ils l'ont plugué là parce que ça prenait une fille dans un film de gars.
Ouais, puis... Puis c'est vraiment une fille tâche, comme dans bien des films des années 80, malheureusement, au personnage féminin. Tu sais, l'expression que j'utilise souvent, le chick in a bucket.
Le chick in a bucket.
C'est encore elle, là. C'est vraiment... J'aime pas ça. Je trouve ça désagréable. Ronnie Cox, qui joue Dick Jones.
Ronnie Cox.
Le TDC par excellence.
On parlait de lui
il y a deux semaines.
Total Recall.
Total Recall.
C'est le même personnage. C'est exactement le même personnage. C'est carrément.
C'est la même affaire. Puis tu sais, les deux, c'est un film de Verhoeven.
Oui, c'est ça. C'est carrément.
C'est
le même personnage. C'est hallucinant.
Il fait bien, mais...
Ben, c'est juste que... C'est pas qu'il est pas crédible, c'est pas qu'il fait mal, c'est juste que c'est le même. C'est juste la même affaire.
C'est-tu quoi? Michael Ironside, il fait souvent aussi le même personnage, mais pour vrai, je préfère Michael Ironside, moi.
Oui,
que Ronnie Cox.
Moi aussi.
Parce qu'il est comme un trou de cul, Ronnie Cox. Mais je sais pas, il manque quelque chose. Il y a le Michael Ironside, là, il y a l'espèce de grit, là, de papier sablé, un peu, là, qu'il y a.
Ouais.
Qu'il y a pas dans Ronnie Cox, mais bon, tu sais.
Non. Ben, c'est ça. La performance est bonne. Mais c'est juste la même tout le temps. C'est carré. On enchaîne-tu avec Kurt Woodsmith.
Ouais, Kurt Woodsmith qui fait Clarence J. Boddicker. Clarence Boddicker. Moi, c'est mon préféré, moi.
Moi, c'est mon préféré aussi.
Il était carré.
Il est vraiment bon. En fait, ça fait deux fois qu'on écoute des films avec Ronnie Cox, puis que finalement, on préfère son bras droit.
Ouais. Ouais.
Dans Total Recall, on préférait Michael Ironside, puis là, on préfère Kurt Woodsmith. Bref, écoute, faut vraiment qu'on parle d'un petit quelque chose avec ces deux personnages-là, justement.
Go.
Dans les films américains, les personnages se parlent toujours avec leur nom de famille. Ils s'appellent tout le temps par leur nom de famille. T'as-tu remarqué que dans Robocop, en tout cas, moi, c'est un des seuls films, à ma connaissance, c'est le seul film où est-ce que les méchants, ils se parlent par leur prénom.
Ah, oh, j'avais pas remarqué.
Clarence, il se fait appeler Clarence, puis Dick appelle Clarence, puis Clarence appelle Dick Richard.
Ah ouais. Puis
vraiment cool.
Ouais, mais quand il y a l'espèce de rencontre dans le bureau de Richard Jones. Là,
c'est ça.
Puis qui dit, puis tu sais Clarence Boddicker, dans le fond Boddicker, il regarde Dick Jones puis il dit Dick. Tu sais, puis il l'appelle, tu sais, il y a une espèce de jeu où il rit. Le personnage il rit parce qu'il l'appelle par son prénom.
Ben c'est ça. C'est ça, ouais. Je fais précisément référence à cette scène-là. Mm. Où est-ce que justement, c'est comme s'ils se rapprochaient l'un de l'autre. C'est comme s'il y avait une connexion entre les deux méchants parce qu'ils se permettaient de s'appeler par leur prénom. Il y a comme une espèce de connivence, il y a une espèce d'attachement, ouais. Ou je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux personnages parce qu'il y a cette espèce de deuxième degré-là dans la conversation où est-ce qu'ils s'appellent par leur prénom. J'ai trouvé ça vraiment cool.
Ouais, c'est une super bonne observation, ça, c'est cool, au bout.
Mais, puis, c'est juste moi ou ben non, Boddicker, j'ai tellement envie de l'appeler Boddicker.
Boddicker.
Bone Dicker.
C'est en fait par exprès pour qu'il y ait Dick dans son nom, parce que c'en est tout un, man. Oh.
Non, quel trou. Ça aussi, c'est un TDC, là, comme tu dis. Là, mais...
Ah, méchant trou de cul. Là.
Mais on aime la haïr aussi, tu sais. Faut pas oublier que le but de ce personnage-là, c'est qu'on veuille pas l'aimer, tu sais. Puis ça, je trouve que l'acteur, il le rend très bien. On l'aime pas.
On est tellement content qu'il crève. Là. Oh, que ça fait du bien. Surtout qu'il crève d'une manière un peu terrible. C'est pas super agréable.
Là. Non, pas super.
Mais ce que j'aime dans le détail de sa mort, c'est qu'il sort ce pic-là.
Ouais.
Il plante dans le cou. Après ça, plus tard dans le film, il s'en va au CP, Robocop. Là, ce pic-là, dans le fond, c'est pour se connecter à des ordinateurs.
Ouais.
Il sort le pic est couvert de sang. Là, il rentre dans l'ordinateur. J'ai aimé ça. J'ai fait comme... Ah! T'sais, ils se sont assurés que ça soit... Que ça marche. Parce qu'on sait, tu sais... On sait que c'est pas toujours tourné chronologiquement, le film.
Oh, ça, mais il est raccord, comment
dire. Ouais. Fait que ça, c'était super, là. J'ai voulu Miguel parler de Miguel Ferrer parce que le personnage de Bob Morton est très drôle, je trouve.
Écoute, ça, c'en est un autre. Moi, je trouve qu'il y a deux affaires qui m'ont accroché dans ce film-là. Ben, trois affaires, en fait. Premièrement, le costume de Robocop. Deuxièmement, Clarence Boddicker, interprété par Kurt Woodsmith. Et le personnage de Miguel Ferrer.
Ouais. Bob Morton. C'est le jeune homme d'affaires qui est prêt à piler ses autres pour monter, là, t'sais. Qui respecte pas les plus vieux, qui est comme, tu sais, les plus vieux, ils ont juste des idées de merde. Moi, je suis jeune, moi, je sais tout, moi, je suis capable de tout faire.
Puis quand il y a de l'argent, il se prostitue avec la coke, puis la coke entre les seins de la fille, les deux. En tout cas, cette scène-là est super bonne. Bref.
Ah ouais?
Non, mais tu sais, elle est efficace, là, tu sais, ça donne un beau portrait du personnage, tu sais. Puis je trouve que Miguel Ferrer, je trouve qu'il, comment je pourrais dire ça, qu'il transmet bien cette façon-là, cette attitude-là, pardon. C'est vraiment une attitude qu'il a, que son personnage a, puis qui est vraiment bien réussi.
Non, il est super bon, avec une belle mort en plus. Il se fait tirer dans les genoux, là, puis...
Ah, c'est beau, hein?
Il laisse une grenade, là. C'est super. Non, il a bien fait ça. Il est bien mort.
Ouais. Non, c'est vraiment un beau personnage. Bien joué.
La scène de la toilette, là, entre lui et Ronnie Cox, là.
C'est super.
Il est en train de blaster son personnage, puis Ronnie Cox est en train de chier. C'est magnifique. c'est la première fois que j'ai vu un plan de caméra de même.
C'est vrai.
Genre, la caméra à terre, puis genre, le pantalon baissé avec les jambes, là. Le gars. Il n'y a pas de. Okay, j'ai une question par rapport à cette scène-là. Il s'est torché avant que la caméra le monte, hein. J'espère.
Très bonne question.
Parce que sinon, là, on devrait voir un mouvement qui semble indiquer qu'il se torche. Pourtant, la caméra le monte longtemps. Là, t'as un gros bout de conversation, là. De l'autre bord de cet angle-là. Fait que, on peut prendre pour acquis que Dick Jones est sorti de là. Un petit peu beurré, là, tu sais.
Il y avait des traces de break dans ses bobettes ce soir-là.
Ah, j'aime ça voir des affaires de même dans des films, tu sais, aller chercher des
trucs. Mais c'est drôle parce que. Je me suis vraiment fait le même commentaire par rapport à ce plan-là. Je trouve que la photographie, pour ça, est bien réussie. Il y a des très beaux plans dans ce film-là. Puis, justement, comme tu dis, c'est vraiment la seule fois, je pense, que j'ai vu des pantalons baissés comme ça à travers les séparateurs, tu sais, dans la toilette. Là. Ouais. C'est vraiment bien pensé. Là. Le gars qui a pensé à avoir ce snap-là, là, bravo.
Verhoeven, il fait des belles choses. C'est intéressant.
Mais parlant de belles choses, on peut aussi parler de moins belles choses comme les effets visuels.
Ouais.
Ça a mal vieilli, hein?
Ben, je pense que ça n'a jamais été bon. C'est ça l'affaire. j'ai jamais eu le souvenir que chaque fois qu'on voyait des miniatures, des trucs de stop motion, c'est d'une non-fluidité absolument incroyable.
Écoute,
c'est le pire stop motion au monde.
Parlons, d'après moi, de la pire scène du film. Là, c'est... Attends, il y a deux pires scènes du film. La première scène du film qui est vraiment pourrie, c'est le bout où est-ce que Robocop, il se pousse dans les escaliers, puis que le super-robot, il n'est pas capable de le suivre.
ED-209.
Que tu fais un super-hot robot, puis il n'est pas capable de descendre des marches.
Ouais, je sais. justement dans le truc de le Honest Trailer, là, ils disent tu sais qui l'ennemi numéro un de ce robot là c'est des escaliers.
Je me rappelais pas de ça.
Stairs.
Mais puis une affaire qui est cool, c'est que quand ils tombent des marches, la façon dont ils ont filmé ça, c'est qu'ils ont pris la miniature du bonhomme dans un escalier miniature, puis ils l'ont juste poussé, puis ils ont filmé la déboulade. Je sais pas si c'est un verbe, là. En tout cas, bref.
On va dire que oui.
Ils l'ont vu planter dans les escaliers, tu sais. Mais après ça, quand il est sur le dos, dans le bas des escaliers, puis qu'il se débat, ça, c'est en stop motion, là. Oh my God, c'est mauvais!
Écoute, ça se peut qu'on entende cette scène-là, parce qu'il y a une autre affaire qui m'a gossé de cette scène-là.
Le bruit de cochon.
Ouais, on va l'entendre tantôt, puis en tout cas, on va peut-être parler du son de cette scène-là tantôt, OK?
C'est ça.
Parce que...
C'est un cri de cochon, hein, qui a été utilisé. En tout cas, bref, ça, c'est la première des scènes que je trouve vraiment épouvantable. La deuxième des scènes, c'est à la fin, quand il y a le personnage de Ronnie Cox, là, qui est, voyons, Dick Jones. Il se fait tirer dessus, puis là, il passe à travers la fenêtre, puis il tombe. Man, les mains du gars. Premièrement, il a les bras plus longs que les jambes.
Ouais.
Puis deuxièmement, écoute, c'est épouvantable.
Non, c'est vraiment pas bon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était le but, que ça ait de l'air cheap, mais. Je sais pas. Non, j'ai toujours haï ça. C'est vraiment chier. Ouais, c'est le pire stop motion de l'histoire de l'humanité.
Écoute,
peut-être dit que j'en sais un peu.
Non, mais c'est parce que même moi, mes questions, là, c'est par rapport au super robot. Là. Comment tu fais pour faire en sorte que les mouvements saccadés d'un robot, tu les trouves poches? T'sais, t'es supposé de te dire, hey, il y a un robot, il va être saccadé, ça va être cool, t'sais. Ça va fonctionner, ça va fitter. Non!
Ça marche pas. C'est vraiment raté.
Puis écoute, c'est plat. Non, vas-y.
Vas-y. Non, continue, parce que...
Non, je vais m'en aller.
Faire autre chose, moi.
Ah, ben, moi aussi, fait que vas-y.
Vas-y.
OK.
Je te laisse.
Une autre affaire dont je voulais parler, c'est les prothèses du saut de Robocop. Parce que je trouve que le saut de Robocop en tant que tel, je le trouve vraiment efficace. Puis le concept du gun qui range dans sa cuisse, c'est fun. Le pic qui sort, c'est cool. Mais évidemment, le gun qui rentre dans la cuisse, c'est pas l'acteur.
Ils ont pas coupé les jambes à Peter Weller.
C'est juste une jambe. Puis à chaque fois qu'on a le plan de la jambe, il n'y a rien d'autre que le plan de la jambe. Ouais. On voit pas le corps aussi parce que c'est juste la jambe. Puis, mais ça, c'est correct. Ce qui me bug, c'est le bras avec le pic qui sort. C'est aussi juste une prothèse. C'est pas, le pic, il est pas au-dessus de la main ou en dessous de la main, puis il sort. Non, c'est carrément toute une prothèse. C'est un machiniste qui est à côté de Peter Weller, puis tu remarqueras, quand tu le sais, tu vois juste ça. Tu vois juste que c'est une prothèse, puis que le bras, il bouge vraiment mal. Il n'y a pas l'articulation coude, l'articulation est plus loin, parce que c'est quelqu'un d'autre en arrière qui tient le bras, tu sais. C'est vraiment pourri.
Il aurait pu mettre ça dans le soute, là.
Oui.
Puis genre, quoi, t'sais, juste t'sais, une télécommande, hein, genre, passe un piton, puis là, ça sort. Là.
C'est un peu à l'Assassin's Creed, là, à l'intérieur du bras, puis ça sort entre les doigts, tu sais, puis là, avec l'angle de la caméra, tu joues un peu pour pas que ça soit évident, tu sais.
Il aurait pu mettre un mécanisme, quelque chose, en tout cas. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Là. Puis, c'est ça, tu sais, ce qui est plate, c'est quand même, visuellement, le film est intéressant.
Oui.
Le costume de Robocop est très cool. Il pèsait une tonne, cette affaire-là, à peu près, là, apparemment. Ouais. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça que genre Peter Weller a fait le deuxième, puis après ça, non, man, j'en fais plus, c'est fini. Puis le troisième, c'est pas lui, puis le suit, c'est un suit en plastique, vraiment léger, là. Puis ça paraît, là, c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas ce côté-là qui a de l'air métallique, qui a de l'air... Fait que, visuellement, les affaires sont super intéressantes.
Une affaire de fun par rapport à son suit... Tu sais, la fameuse image de Robocop où est-ce qu'il est à côté de son char de police, la porte ouverte, puis il a le plié à l'intérieur du char, mais il est debout à côté du char.
Hein?
Cette scène-là, elle existe parce que ça rentrait pas. Il pouvait pas rentrer dans le char avec son soupe de Robocop.
Comprends.
Il était trop gros. Fait que quand on le voit dans l'auto, il est coupé au... Il porte pas le bas du soupe. Il porte juste le top.
Il est cul nu?
Il est cul nu. Ou l'inverse, quand on le voit avec ses pieds, on voit juste ses pieds, on voit pas le top. Ça rentrait pas. Fait qu'on le voit jamais complètement sortir de son char. Il est tout le temps juste le pied dedans.
Ah, ben, t'as, ben, ouais. Ben non, pis c'est ça, tu sais, visuellement, c'est cool. Moi, j'aime les costumes. Tu sais, chaque méchant a un look différent qui fit avec sa personnalité.
Ouais.
Tout ça, c'est vraiment intéressant. Même le look de la police avec leur gros gilet pare-balles, les casques avec les micros, et les... Non, c'est
vraiment bien.
Même qui, visuellement, est intéressant, ce qui est... c'est plate pour le stop-motion.
C'est plate pour le stop-motion, mais moi, je trouve que tout ce qui est costume est extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Autant les méchants que les gentils, que la police, que les gens à OCP avec les costumes complets cravates, autant le méchant dans l'espèce de dépanneur là, qui arrive avec sa mitraillette, puis il prend tellement mal sa mitraillette en plus, il apprend par le canon. T'as-tu remarqué ça? Il prend la mitraillette par le canon. Hey man, si tu tires avec ça, là, ça va devenir bouillant, là. Tu vas te faire fondre la main. T'sais. En tout cas, bref, il tient
ça. Tu cuis du bacon avec ça.
Ben oui. Mais tu sais, il y a une espèce de trench coat, là. Il est vraiment sale, il est laid. Je trouve que les costumes sont extrêmement bons.
Ça c'est
vraiment
c'est
ce qui m'a accroché dans le film, c'est les costumes. C'est drôle à dire, là, mais ça m'a vraiment accroché.
Tu sais, dans les autres choses, y a un dude qui explose quand il se fait frapper par un char. Fait que, tout va
bien. On parlait de gore et de violence tantôt, ça, là. Oh my god. Et moi, tu sais, justement, tantôt, tu parlais d'un peu l'aspect comique de ça, tu sais. Moi, j'aurais aimé ça qu'il parte ses wipers.
Ouais, mais c'est ça qui manque, parce que, tu sais, c'est ça, je comprends pas. Ils ont filmé après ça ce que Clarence Boddicker, il voit, genre, là, c'est comme full. Man, s'il avait parti les wipers, là, ça aurait été malade.
Ça aurait été bon, ça aurait rajouté une dimension comique, tu sais. Mais non,
qu'est-ce que ça dit sur moi, le fait que je trouve cette scène-là pissante à chaque fois?
Oh boy. T'es-tu prêt?
Bon. Ok, oui.
Sébastien.
Ouais.
Peter Weller.
Oui.
On disait tantôt que c'était pas un great acteur, là. C'est pas la meilleure chose, là. Puis il fait souvent des apparitions dans des trucs, mais il a pas eu de rôle principal depuis vraiment longtemps. Il a fait bien des apparitions dans des séries télé, des trucs comme ça, mais pas sûr que ça paye son loyer, qu'il en fait assez pour payer son loyer. Bref, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi son day job?
Il y a un autre job dans la vie? Oh man.
Ouais. Évidemment, le même pointage qu'à chaque semaine. Un indice, moins un point.
OK. C'est un dentiste.
Non.
OK, donne-moi un indice.
Il parle parfaitement italien.
C'est un traducteur. Oh.
Non.
Et un autre indice.
C'est Dr. Peter Weller. Depuis 2014. Avant, il avait fait une maîtrise dans un autre domaine complètement différent. Et voilà.
Il est docteur en sauce tomate.
T'es-tu vraiment impressionné si je te dis oui? Non.
Ok, donne-moi un troisième indice.
Son domaine de spécialité, c'est l'histoire de l'art, plus précisément de la Renaissance italienne.
Donc, il travaille dans un musée en Italie?
Non, ben, je vais te le donner, là, parce qu'avec 6 points, ça va être assez. Il est professeur d'histoire de l'art, en fait, de littérature, dans un département d'histoire de l'art à l'Université de Syracuse.
Ah, ben, tabarouette.
C'est un historien de l'art, man. C'est Dr. Peter Weller, parce qu'il a fait un doctorat en histoire de l'art.
Dr. Robocop.
Puis là, sur IMDB, ça dit que c'est un des professeurs les plus populaires de l'université, tu sais, mais c'est juste à cause de Robocop, c'est sûr.
Gars, tu vois, je pense que je ne suis pas un gagnant cette semaine. Ça n'a pas été...
Non, c'est pas concluant. Non.
You lose! Good day, sir!
Mais, ouais. À ta défense, c'était vraiment difficile.
Quand même! Ouais.
Mais c'est juste qu'avec ta réponse de... C'était-tu la semaine dernière? Parce que là, on a tellement enregistré d'épisodes...
Ouais, on le sait plus.
C'est vrai que je suis un peu mélangé. Mais la question du geek, où est-ce que je te posais des questions sur les films de 1984?
Ouais, il y a comme...
Ouais, ça, c'était Ghostbusters. Donc, ça fait une semaine. Là. C'est bon. Mais, man, t'avais eu Romancing the Stone, là. Moi, je l'aurais pas eu, Romancing the Stone. Là.
Ah, Romancing the Stone. Mais je le connaissais,
ce film. Je l'écoutais encore et encore et encore quand j'étais petit, là, tu sais. Mais nous autres, on l'écoutait en français. Fait que sortir avec Romancing the Stone, je l'aurais pas eu.
Ah.
Fait que là, je me suis dit, je vais pimper ma question cette semaine. Et non.
Bon, est-ce que t'es prêt, toi, pour ton.
Ton bout
préféré?
Ah oui.
Donc, cette semaine, j'ai 9 extraits pour vous, pour tout le monde, pour toi. On va commencer tout de suite avec une publicité.
Et beaucoup de questions, d'ailleurs.
Oui, mais il y en a des questions dans ces extraits-là, puis tu vas comprendre pourquoi. On va commencer avec une des publicités du film.
Here at the Family Heart Center, we feature the complete Jarvik line. Series 7 Sports Heart by Jensen. Yamaha, you pick the heart. Extended warranties, financing.
Ouais. Mais toutes les pubs sont cool.
Ouais,
toutes les pubs sont
ça.
Vraiment cool. Puis ils font vraiment une critique sociale dans les pubs. Je trouve ça le fun. C'est un peu justement comme dans Starship Trooper où est-ce que Would you like to know more?
Ouais, ben c'est la même affaire.
C'est le même concept.
Ils utilisent beaucoup ça dans ces films, le Verhoeven.
Même dans Total Recall, il y avait aussi cet aspect-là des publicités.
Ouais.
Ou est-ce qu'il y en avait un peu partout, mais il y en avait aussi à la télévision. Quand il prend le métro, il y a une pub. C'est pas autant comme nous interrompons ce programme pour vous présenter une pub de machin, mais c'était comme intégré dans l'histoire, les publicités. Mais c'est effectivement une chose qu'ils utilisent beaucoup.
Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que les pubs sont en plein milieu des nouvelles. T'sais, ils donnent des nouvelles, ils mettent une pub. Ils donnent des nouvelles, ils mettent une pub. La pub a presque une place aussi importante que l'information. C'est magnifique. Là. Ouais, le prochain, c'est... si je me souviens bien, c'est Clarence Boddicker qui est devant un de ses mignons, disons-le même. Un de ses serviteurs de voler.
Banana!
Can you fly, Bobby?
Can you fly, Bobby? J'aime ça toutes les fois qu'il sort des petites affaires de même dans le film. Là. La voix là, qu'il utilise, c'est super intéressant. Can you fly, Bobby? Ça, c'est un de mes préférés. Okay, là, j'ai besoin de ton aide.
Vas-y, pas.
J'essaie de comprendre le son que Clarence Boddicker il fait. Là. Je sais pas c'est quoi qu'il essaie de faire. Fait que, on va voir si toi tu le sais.
Écoute, ça m'a... Non, je me rappelle pas, c'est où ça dans le film?
C'est juste avant qu'il tire sa main avec son 12.
Ah oui, c'est ça.
Je comprends que c'est comme un bruit de truc qu'il essaie de viser.
Un scanner, là, ouais. On dirait qu'il part, tu sais que... OK. C'est un peu geek musical, là, mais tu sais, au camp des Laurentides, là, il y a l'espèce de machine de char, là.
Ouais.
C'est ça,
la carte de char, là. Ouais.
Puis quand tu roules, ça fait ce son-là. Puis tu changes de vitesse. Ça fait exactement le même son.
En tout cas, je l'ai pas compris, ce son-là. Tu sais que j'aime ça, en plus. Quand j'écoute des films, pis y a des sons que je fais comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? J'aime ça les capturer. Le prochain, c'est vraiment une espèce de, quoi? En tout cas, ça va.
I know! Give her a haircut! Hey! Hey! It's my hair! Down there!
Ouais, c'est la scène du viol, ça.
Ouais, mais c'est le... Moi, ce que j'ai fait, c'est que... Ah, parce que... On va y couper les cheveux! Il y a plus de cheveux! Ah, en tout cas, sont tellement... En tout cas, ouais, ça... Ah, ok, ouais, c'était bizarre, tu sais, mais ça fait partie beaucoup... Moi, je trouve que ça fit très bien dans le film, là. Dans les méchants sont complètement sautés, là, tu sais.
Ouais,
mais ouais, j'aimais ça, je les aimais les autres. Ah ouais, David, c'est pour toi celle-là. David,
je comprends pas le titre, là.
David et lui, même combat, donc David et le gars qui parle, c'est le même combat pour vous deux.
I'm a desperate man! And second, I want some fresh coffee! I want some fresh coffee.
Écoute, j'adore cette scène-là. Le gars, il a des, tu sais, il a tué du monde, il a le maire en otage, pis ça. Puis là, il fait sa liste de demandes. Puis la deuxième, c'est du café.
Ouais.
Que j'ai pensé c'était à bon. Toi.
C'est une drôle de scène. Hey, tu sais sûr que cette scène-là, là, tu sais, il y a Robocop qui arrive, puis qui a une espèce de vision infrarouge.
Ouais.
Ok, ah, ça, il faut que je te parle d'une autre affaire aussi après. Mais bref, il y a la vision infrarouge, mais il voit les gars avec les taches de chaleur, tu sais, à travers le mur. Mm-hmm. La façon dont ils ont tourné ça, là, c'est qu'ils ont mis de la peinture de couleur sur les acteurs nus. Ils ont fermé les lumières, puis ils ont mis des blacklights. C'est comme ça qu'ils ont tourné cette scène-là.
Beau.
C'est magnifique. Beau. Puis la deuxième affaire dont je voulais te parler, la deuxième scène, c'est la scène où est-ce que il rentre dans l'usine de cocaïne. Là.
Ouais.
Puis là, son espèce de viseur, il spot tous les gars dans le shop, tu sais, pour pouvoir savoir où ils sont puis les tirer après. Là. Il en manque un.
Pas vrai?
Il y en a un. Ouais, tu remarqueras en bas à gauche, il y en a un qui est très clairement là, mais il passe par-dessus son ordinateur. Il y a un glitch, ouais.
Le programme, tu vois, Robocop, il est pas... ça doit être Microsoft qui l'a fait. Oh! Okay. Bon, je voulais absolument capturer ça parce que c'est une phrase, tu sais, un tagline important de Robocop.
Dead or alive, you are coming with me.
Nice.
J'aime quand même sa voix. C'est ça, ben, truc métallique, là.
Ouais, c'est ça, l'espèce de... Tu sais, on dirait les espèces de micros pour enfants, là. Tu sais, tu parles dedans, puis... C'est une espèce d'effet visuel, sonore, on dirait ça. On dirait que ça sonne un peu comme ça.
Mais tout le côté son, même quand il marche, on l'entendait un peu en arrière, là. Mais c'est pas... J'aime ça, je trouve ça le fun.
Ouais, auditivement, c'est bien réussi, je trouve.
Ouais, ça fait quelque chose d'épeurant. Parce que, tu sais, épeurant pour les criminels, là, dans le fond, là, c'est comme le son du... C'est comme, ah, oh, man, robot comme ça. J'aime ça. Ouais, le prochain... Chier de la neige. Ça...
I got the muscle to shove enough of this factory so far up your stupid wop ass that you'll shit snow for a year.
Je l'avais remarqué, celle-là.
Je l'adore, Clarence Boddicker.
Il y en a plein de petites lignes de même, là, où est-ce qu'il dit une affaire, c'est quoi? Il y a quand même une coupe dans le film, là. C'est vraiment des belles phrases. C'est un beau personnage. Il est vraiment cool.
Je veux juste m'excuser à tous nos auditeurs italiens pour ce commentaire raciste qu'on vient d'entendre. C'est Clarence Boddicker, c'est pas moi. Ah ouais, ben là
c'est la salle de l'escalier, là, justement.
Ouais. Okay, on va l'écouter, là.
C'est ça.
Aucun sens.
C'est le bruit d'un... C'est un porc.
Ouais, mais c'est con! Pourquoi un robot ferait ce bruit-là? C'est complètement niaiseux. Là.
Ouais.
Moi, ça me fait chier. Ben... Je suis outré! Ben
j'avais lu, il y avait trois sons qui avaient été pris. Il y avait le son du producteur ou du réalisateur. C'est la voix du réalisateur, je pense. Je sais plus trop. En tout cas, bref, la voix, il y a de quoi avec la voix du robot. Quand il crie... comme agressif, c'est le rugissement d'un lion, puis quand il hurle comme ça, c'est le cri d'un porc. En tout cas, bref, c'est un drôle de choix, mais ouais, c'est un peu weird comme son.
C'est pas super, là. En tout cas,
non, c'est pas la meilleure chose, vraiment, ce robot-là.
La dernière affaire, c'est... Je sais même plus c'est quoi. c'est écrit, hein? Mais on va le découvrir ensemble.
Except there ain't nothing free, because there's no guarantees, you know? You're on your own. There's a lot of jungle.
Hein? C'est quoi ça?
Les nouvelles, tu sais, ils parlent à du monde dehors, parce qu'il va y avoir la grève de la police.
C'est le jungle qui...
Je sais pas, il m'a tellement... Ça m'a tellement fait comme... Man...
Hein?
Il débarque d'où? Tu sais, il y a pas rapport dans le film, vraiment, mais... je voulais garder, immortaliser ce moment-là. C'est trop beau. La musique, on revient avec notre bon ami Basil Polidouris. Attends, il a fait Starship Trooper, mais il me semble qu'il a fait d'autres films qu'on a écoutés. Tu peux-tu?
Je sais pas. Je suis sur Peter Weller. On va aller essayer de faire ça rapidement.
C'est celui qui a fait. Non, il a fait. Non, je pense qu'il y en a. Conan. Ah non, c'est. Oui, Conan, c'est lui aussi.
Ben, ça sonne vraiment comme. Comme voyons. Ça sonne vraiment comme Conan.
Si je pèse play là-dessus, est-ce que t'entends?
Est-ce que t'entends?
Non, bon. Faudrait que j'utilise une autre affaire. Excuse-moi. Non, écoute, c'est...
Mais c'est une bonne musique. Bon. Je trouve, qu'il y a juste un thème, mais c'est bon.
Ben, comme j'écris, c'est efficace. Ça fait le job. Il y a des endroits où c'est vraiment bien fait. Il y a des endroits où la musique est vraiment bonne. L'espèce de poursuite au début où sont les méchants sont une espèce de van puis les sont en char,
ouais.
La musique est cool, il y a des bonnes affaires. À un moment donné, on dirait que ça on la perd dans le film. Au début du film, ouais. Elle est très bonne, très là, puis à un moment donné, ça s'effrite.
Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne lecture du truc, je trouve. Ouais.
À part la scène où genre ben, Robocop il sort, puis là, il se met à faire... à combattre le crime, puis là, avec le thème, là, pom, 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 puis là, tu vois un char qui roule là-dessus, ça, c'est cool, hein, ça part, mais il y a des bonnes affaires, c'est un bon compositeur, Basil Polidouris.
Ouais, je suis pas d'accord.
Combien donnes-tu à Robocop?
7 sur 10. 7 sur 10. Qu'est-ce c'est cool, mais c'est vraiment pas transcendant comme film. C'est pas dans les meilleurs, définitivement.
Moi, je suis très généreux, je vais donner un 8 sur 10. Parce que, écoute, je vois des choses que t'as pas vu dedans. Fait que moi, pour moi, ça améliore la note. Puis en bout de ligne, sur IMDb, c'est un 7,5. Hein.
Fait que, ben, c'est ça que j'allais dire. Fait que c'est,
on pile dessus.
On représente la moyenne.
Oh, ouais. Fait que, ouais, il y a des bonnes affaires, des trucs intéressants. Je pense que ça vaut la peine d'être vu peut-être d'un autre angle que l'angle de premier degré, surtout par rapport à la violence. Ça a réussi à trouver une signification à cette violence-là. Je pense que ça l'adoucit beaucoup, puis ça la rend utile, dans le fond. Comme toujours, je vous invite à aller faire un tour sur notre Patreon, patreon.com/sbalbino. Venez contribuer, nous aider. $1 par mois, ça nous aide au bout. Ça nous permet d'améliorer l'émission techniquement. Donc, meilleur son, meilleure image, meilleur tout. Fait que c'est toujours le même contenu. Mais en HD. c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Et là, je dois vous expliquer ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Parce que c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Là. C'est que David et moi, on n'est pas là pour les deux prochaines semaines. Mais on vous a enregistré des épisodes. Puis on a fait des épisodes pas sur des films. On s'est dit, on n'est pas là. C'est l'été, on fait quelque chose d'un peu différent. On a fait sur deux épisodes de deux émissions différentes. Le premier, qui est la semaine prochaine... Ça va être sur The Trouble with Tribbles, qui est l'épisode de la série originale de Star Trek. C'était très le fun à regarder, très le fun à faire comme épisode. La semaine d'après, vous allez avoir un épisode sur The Day of the Doctor, un spécial de la 7e saison de Doctor Who, qui célébrait le 50e anniversaire de Doctor Who. La semaine d'après, vous n'aurez rien. Là, c'est un congé total pour David et moi. David est occupé... Moi aussi, on prend un petit temps. Moi, ça me permet de prendre un petit temps en famille. David, ça lui permet de travailler.
C'est ça.
Il y aura une semaine, pas d'épisode.
Ben, c'est ça, j'allais juste dire que j'allais être parti dans un autre camp d'été pendant une semaine, puis avec une connexion Internet, pas certain. Ouais. Fait que enregistrer l'émission, ça va être difficile. Juste écouter le film, ça va être difficile aussi. Fait que on se reprendra donc dans 4 semaines.
Ouais, parce que l'autre semaine d'après, ce que je veux dire, c'est que l'épisode ne sortira sûrement pas le dimanche, là, puisqu'il faut donner le temps à David d'écouter le film avant qu'on puisse le faire, puis comme il est toute la semaine dans un camp. Fait qu'il va arriver au courant de la semaine, on va trouver un moment où on va pouvoir faire l'épisode qui devrait être cet épisode-là sur
Dark Crystal.
Dark Crystal, ouais. Fait que les deux prochains, ils vont être en ligne le prochain dimanche pendant la journée, la semaine prochaine, puis l'autre dimanche soir, parce que je vais faire quand je vais arriver du camp. Ça va être aussi la même chose pour la version YouTube, parce que d'habitude on l'a fait en direct. Là, on l'a pré-fait, pré-enregistré, fait que dimanche prochain, toute la version YouTube, podcast, le kit va être mis en ligne pour l'épisode sur The Trouble with Tribbles. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur notre site internet qui est moi-geek.com/visionx. Vous allez trouver tous les épisodes, vous allez trouver les liens pour notre Patreon, pour iTunes, vous allez trouver les versions vidéo, audio d'épisodes. Vous allez aussi venir nous suivre sur Twitter, hein? Vision, j'oublie tout le temps notre Twitter, VisionX_podcast. Venez nous suivre. Comme ça, vous allez savoir à chaque fois qu'on fait un épisode, vous allez savoir c'est quand. Vous allez pouvoir avoir les liens pour voir le live. Des fois, je mets des niaiseries. Des fois, on a des petites. Enfin, on peut avoir des conversations aussi. Si vous avez des opinions, des trucs à donner sur Twitter, venez faire un tour. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à visionxcast@gmail.com. Si vous avez des commentaires, si vous voulez participer à la discussion, allez-y. Allez faire un tour sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Laissez-nous un beau rating, une belle critique avec un 5 étoiles. Puis aller sur partout où l'émission est disponible, nous laisser des ratings de 5 étoiles, ça nous fait un grand plaisir. Sur ce, David, comme d'habitude, bonne semaine.
Ben, bonne semaine.
On va se voir pendant 2 semaines et à tantôt. Ouais. À tout le monde, je vous souhaite des bonnes semaines, des bonnes 3 semaines. Puis j'ai bien hâte de réenregistrer une émission parce qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire Vision X et je veux pas ça se faire pour nous. Comme on a déjà préenregistré les émissions, c'est 3 semaines sans faire de Vision X. Fait qu'on va s'ennuyer de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui tombent à vacances parce que c'est les vacances de la construction. Passez des belles vacances. Faites attention à vous. Puis on se reparle très bientôt.